culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Auditeurs, auditrices, bonjour ou bonsoir selon là où tu te trouves sur le globe. Bienvenue au culte espoir. Alors tu te demandes peut-être dans quel genre d'émission tu es tombé, une émission radio, un podcast, une vidéo. Bah c'est pleinement les trois, mais c'est surtout un culte, un moment d'une heure que nous allons passer ensemble où l'on mêle chants, témoignages, des découvertes bibliques, on te lance régulièrement des défis dans ton quotidien pour vivre des expériences avec Dieu. Et pour animer ce programme, je ne suis pas seul, fort heureusement. Je suis accompagné de Marilyn et Amandine. Bonjour les filles.
Bonjour Brian.
Dans ce culte, nous avons toujours un invité. D'ailleurs, c'est plutôt une invitée. Evie Rayapin, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu étais déjà avec nous la semaine dernière. Mmh. Tu nous avais parlé de l'humiliation vers l'humilité, c'était ton thème.
Oui.
Très intéressant d'ailleurs. D'ailleurs, je t'invite, auditeur, auditrice, à écouter son partage si ce n'est pas déjà fait. Alors, Evie, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en quelques mots?
Comme tu l'as dit, je m'appelle Evie Rayapin. Je suis de profession infirmière à la base. Et puis, depuis quelques années, je fais des études de théologie à Collonges. Donc,
En même temps.
Simultanément.
Incroyable.
Simultanément.
Et de quoi vas-tu nous parler alors du coup aujourd'hui?
Et aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Le principe divin. L'amour, ouais.
Le principe divin.
Enfin, point d'interrogation.
Ah,
c'est quoi
divin,
l'amour de Dieu?
Merci. Eh ben, que le Seigneur nous inspire par le Saint-Esprit et qu'il nous guide dans le message que tu vas nous partager. Auditeur, auditrice, bonne écoute. Dieu dans ma semaine, c'est une chronique où l'on partage comment Dieu impacte nos vies. Une sorte de mini témoignage où la vie avec Dieu devient très concrète. Alors Marilyn, que veux-tu nous partager aujourd'hui?
Eh bien, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce thème, une amie m'a partagé une expérience avec son fils qui m'a beaucoup touchée. Et elle m'a tellement fait penser à un aspect de ce thème que ben, je vous la partage. Alors, c'est une jeune maman d'un bébé d'un peu moins d'un an à l'époque des faits. Ce petit bout de chou avait un peu de peine à s'endormir tout seul dans son lit.
Dur.
Voilà. Alors, après avoir cherché des conseils, les deux parents ont décidé de tenter quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu ou expérimenté peut-être pour aider votre enfant à s'endormir seul. Il s'agit de ne pas se précipiter tout de suite quand il pleure, de ne pas le prendre tout de suite dans les bras.
C'est controversé, il y a des gens pour, voilà. Il y a des gens contre, d'accord.
Et il fallait essayer quelque chose, donc ils ont essayé ça. Voilà, bébé dans son berceau, il est bien tranquille, et puis il se met à pleurer. Alors les parents sont sur le canapé, ils se regardent, ils ne bougent
pas. Je vous imagine,
on arrive très bien,
pas.
Voilà, ils patientent un peu, mais ça ne s'arrête pas. Allez, monsieur, bébé est debout dans son lit, et ça pleure. Alors papa va dans la chambre, et il parle à son fiston, sans le sortir du lit. Alors maman reste dehors de la chambre et au fur et à mesure que le temps passe et que bébé n'arrive pas à se calmer malgré la chaude et douce voix de son papa qui le rassure, elle commence à tourner en rond dans la maison, à gauche, à droite, c'était plus possible. Ses pleurs lui font un truc dans son ventre qu'elle n'avait jamais ressenti. Et elle me dit « Mon mari m'a dit après coup qu'il ne m'avait jamais vue comme ça ». Alors elle finit limite plus agitée que le bébé, alors n'en pouvant plus, elle dit à son mari « Prends le bébé dans ses bras, ça suffit, on arrête là. » Elle ne supportait plus les pleurs et leur effet sur elle. Et elle m'a dit « On m'avait parlé de l'instinct maternel, mais il faut le vivre pour comprendre. Quand ça touche à ton enfant, le fils de tes entrailles, comme on dit, quelque chose vibre au-dedans et ne te laisse pas insensible. Et ce n'est pas que lorsqu'ils sont petits, ça continue a priori souvent dans le temps, ce lien, cet attachement entre les parents, même dans des situations d'adoption, lorsque les facultés d'attachement n'ont pas été trop endommagées par les événements de la vie, probablement. Donc, quand ça se passe bien, en tout cas, on reste sensible longtemps. Quand elle m'a raconté cette expérience touchante, en fait, j'ai immédiatement pensé à un mot un petit peu étrange, entraille. Ce mot, c'est pas vraiment un mot du langage courant, il n'est pas très répandu dans la Bible non plus, mais quand même. Alors voilà la définition littéraire de ce mot. C'est les organes de la femme qui portent l'enfant, les entrailles. Alors ça illustre pour moi ce lien tellement particulier entre une mère et son enfant, dont le ventre va vibrer tout spécialement au cri de son enfant, et pas forcément à celui des autres. Pas pareil. Dans la Bible, ce lien, on le voit moins. Quand on lit, par exemple, que Jésus a été ému de compassion, ça fait, c'est pas le même mot. Mais en fait, à la base, c'est le mot entrailles qui est utilisé dans ces expressions, où on voit que Jésus est tellement touché par les malades, les infirmes, la foule qui a soif de l'entendre. Bref, en tout cas, avec cette expérience que j'ai pas moi-même vécue, j'ai un instant vu Dieu dont l'intérieur résonne à nos douleurs et qui ne peut pas ne pas être touché par nos cris, nos injustices, nos pleurs, tout comme une mère a quelque chose dans le ventre quand c'est son fils qui est touché. Alors cette image, elle m'a vraiment marquée, je vous la laisse, en espérant ne pas remuer tout un tas de questions, peut-être. Pourtant, bon, c'est là le risque quand on touche le fond de notre intérieur. Voilà.
Voici un verset avec lequel j'aimerais t'encourager. Verset que tu pourras trouver dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Romains, chapitre 8, le verset 38 à 39. Si tu te demandes à quel point Dieu t'aime et qu'il a ce profond désir de vivre près de toi, écoute plutôt ceci. Car j'ai l'assurance, dit l'auteur, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Nous étions en train de préparer le culte du jour et puis Marina, une amie chroniqueuse, m'a suggéré le chant « Love » de Kirk Franklin. Oh là là, elle savait pas que ce chant avait une résonance toute particulière pour moi. C'est le chant sur lequel j'ai décidé d'entrer à l'église le jour de notre mariage.
Voilà.
Voilà. Il faut savoir que j'ai jamais été très fleur bleue et à l'époque, je me méfiais beaucoup de l'expression « je t'aime ». Parce que je trouvais que celle-ci voulait tout et rien dire dans notre société, que l'amour tel qu'il est présenté dans les médias, dans les films, dans beaucoup de relations malheureusement que j'avais autour de moi, avait perdu beaucoup de sens. Et Kirk Franklin, dans son chant « Love », qui veut dire donc « amour », dit que l'amour est patient, bon, doux. Alors j'imagine en référence à un texte très célèbre du Nouveau Testament, 1 Corinthiens 13, qui décrit l'amour. Puis il dit notamment « l'amour », un mot qui va et vient, mais peu de gens savent vraiment ce que c'est que d'aimer quelqu'un. L'amour, bien que les larmes sèchent et disparaissent, je suis si heureux, car ton amour demeure, car tu m'aimes et tu me montres, Jésus, ce qu'aimer veut vraiment dire. Alors je te laisse savourer ce chant qui nous fait tourner les yeux vers Jésus, celui qui est amour.
Jesus, what it really means.
Alors pour notre chronique Dieu agit, je suis partie à la rencontre de René. Il a vécu une expérience particulière avec Dieu et je vous laisse la découvrir.
Bonjour René, merci d'avoir accepté ce partage, ce témoignage.
Ça me fait vraiment plaisir de partager ce temps avec toi.
Alors en fait, pour nos auditeurs, tu as été élevé dans une famille croyante ou en tout cas chrétienne. Et puis tu as fait après ton petit parcours. Et puis comment est-ce que Dieu il est revenu dans ta vie
Oui, alors vraiment plus tard. En réalité, Dieu n'a jamais quitté mon existence, sauf que je suis allé l'appréhender selon d'autres modalités.
D'accord.
Il se trouve que cet absolu est un jour venu jusque chez moi me rattraper là où j'étais. C'est dire que notre Dieu n'est pas rancunier et que vraiment il a une patience au-delà de toute compréhension, parce que c'est à 53 ans qu'il est venu toquer à ma porte et où j'ai dit oui à sa présence.
Alors, raconte un peu.
Eh bien, écoute, t'as quelques minutes.
Oui.
Bon, je vais te faire la version courte parce que c'est quand même un petit peu long. Hein. Je sais que le temps est compté. Mais voilà, pour faire court, à cette époque-là, j'étais artisan. C'était en 2017, février 2017. J'étais en train de faire des factures. Et puis, soudainement, ma vie ne ressemblait plus à rien. Alors, pourtant, je gagnais de l'argent. Les factures rentraient. Ça allait à peu près bien. Bien sûr, comme toute entreprise, j'avais des dettes, j'avais des difficultés à surmonter, mais rien d'insurmontable. Et puis, à un moment donné, en faisant ces factures, je me suis demandé à quoi rimait ma vie. Pourquoi est-ce que je galérais autant? Pourquoi est-ce que ma vie était une espèce d'ascenseur émotionnel permanent où je touchais les sommets et puis que je dégringolais dans les bas-fonds sans arrêt dans mon existence? Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je touche le succès du doigt et que jamais il m'appartient? Et à force de me poser ce genre de questions, j'ai dû arrêter de travailler parce que pour moi, j'étais complètement déconnecté de ce que je faisais et c'est comme s'il y avait un abîme qui s'ouvrait devant moi et qui m'empêchait littéralement de penser. Et puis, je me suis arrêté de bosser. Et je suis allé dans mon salon parce que je travaillais chez moi. Et là, je me suis mis à hurler au plafond en criant « Toi, là-haut, là, qui a tout créé, il paraît. Alors, écoute, est-ce que ma vie, ça va être comme ça? Toi qui te prétends Dieu, est-ce que t'as rien prévu d'autre pour moi? C'est vraiment pas possible, quoi. Est-ce que je suis obligé d'être plombier, etc. » Et j'ai vidé mes tripes sur la table, littéralement. Et là, eh bien, écoute, j'ai entendu une voix qui me disait tu peux continuer à être plombier, je bénis quand même, mais j'ai autre chose pour toi. Et sur le moment, quand j'ai entendu ça en moi, je me suis dit non, c'est pas vrai, je suis en train de me la raconter, tu vois, je me fais un fantasme pour me sortir de ce marasme et pour rendre ma vie un peu plus drôle, un peu plus compréhensible, je sais pas. Mais il n'empêche que j'ai été troublé et en tournant ma tête, là, j'ai vu la Bible de ma femme qui était là sur la table basse du salon. Je l'ai prise. J'ai aucune idée de pourquoi j'ai pris cette Bible, parce que tu as dit que j'avais fait un certain détour et à ce moment précis, ça faisait exactement 33 ans que je fréquentais l'islam, que j'étais musulman. Ça faisait 33 ans que je m'étais converti, parce que je me suis converti à l'âge de 19 ans. Mais j'ai pris cette Bible au lieu d'aller chercher mon Coran et mon chapelet. J'ai pris cette Bible et lorsque je l'ai prise en ma main, je l'ai ouverte machinalement. Et c'est comme si elle s'ouvrait toute seule. Et en regardant dedans, il y a un verset qui littéralement m'a traversé l'esprit, qui disait « Je suis la porte, celui qui passe par moi est sauvé. » Hein, c'est fort, hein. Et quand j'ai lu ça, c'est comme si d'un coup, il y a tout l'amour de Dieu qui se déversait sur moi brutalement, soudainement, en tous les cas, pas brutalement, mais soudainement. Et j'étais submergé de lui, littéralement. J'ai ressenti vraiment son amour au plus profond de mon être. Et d'un coup, j'ai eu l'impression que tout ce qui était mauvais en moi sortait de moi littéralement, que tout ce qui était brisé se réparait doucement, que tout ce qui avait besoin d'être réconforté l'était. Et j'étais reconstitué, j'étais réconcilié avec le monde, avec Dieu, avec tout. Et là, c'est exactement comme si Jésus était à côté de moi, en me prenant par l'épaule, en me disant « Tout va bien, fils, tu es à la maison, tu es protégé, tu es sauvé, je t'aime, tout va bien pour toi maintenant. » Et quand j'ai eu ce sentiment, j'étais à genoux, les bras en croix, je pleurais comme une madeleine et j'ai donné mon cœur au Seigneur en disant « Oui Seigneur, je vais te suivre jusqu'à la fin de mes jours. » Tu vois, jusqu'à la fin de mes jours, j'ai pas fait les choses à moitié, mais ça a été un cri du cœur littéralement. Et après, je me suis rendu compte que je me suis dit quand même jusqu'à la fin de mes jours, c'est peut-être un peu long. Mais je me suis dit, non, c'est Dieu qui me parle, là, je peux pas faire autrement, ça peut être que absolu ou rien du tout. Donc, j'ai choisi l'absolutisme et puis j'ai posé cette question, j'ai demandé « Mais… je fais quoi maintenant avec ça? Où est-ce que je vais avec ça ?» Et cette voix qui revient, et c'est pour ça que je sais que c'est Dieu qui m'a parlé la première fois, qui me dit « Suis-moi, tu vas me suivre. » Et ça, tu vois, c'est complètement évangélique, quoi. Je veux dire, c'est complètement biblique. Quand Dieu appelait ses disciples à le suivre, il leur disait la même chose. Et moi, j'ai eu cet honneur, littéralement, de l'entendre me dire « Suis-moi. » Et je ne pouvais pas faire autrement, quoi. Alors, j'ai reposé cette autre question. J'ai dit « Mais pour faire quoi ?» Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais rester plombier et puis évangéliser en tant que plombier évangéliste, pourquoi pas, hein? Ou quoi? Alors je lui demande, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Où est-ce que je vais? Enfin, qu'est-ce que je vais devenir? Et il me dit, pasteur, tu seras pasteur. C'est la même voix qui revient une dernière fois. Et là, je t'avoue que sur le moment, j'étais un peu là, ébahi. Et puis après coup, je me suis dit, bon, pasteur, pourquoi pas après tout, hein? Allons-y, soyons pasteur. Et puis je suis sorti de ce moment un peu magique. Et la première chose que j'ai faite dans tout cet amour qui m'avait bouleversé, c'est j'ai vidé ma maison, littéralement. J'ai pris des cartons, des sacs poubelles, j'ai vidé littéralement, j'ai jeté les deux tiers de ma bibliothèque, j'ai décroché des choses, j'ai vraiment fait le ménage, il me fallait faire le ménage. Et lorsque j'ai jeté toutes ces affaires qui me tenaient à cœur, pourtant, je me suis senti…
Mais qui n'étaient plus en lien.
Ouais, c'était plus du tout en lien avec ce que je venais de vivre et de ce que je devenais. Et d'un coup, soudainement là, je me sentais libre, complètement libre.
Et juste comme tu disais au moment chez toi, cette voix que tu as entendue, c'est assez particulier ça. C'est différent, mais ce n'est pas forcément un haut-parleur extérieur, c'était intérieur, c'est ça c'est...
On ne sait pas comprendre. Exactement d'où vient cette… Alors, on l'entend parfois, et j'ai eu l'occasion d'entendre clairement, mais là… dans une autre occasion, plus clairement encore. Mais là, en fait, c'était vraiment intérieur. C'était comme une pensée. Enfin, c'était une pensée, j'imagine. Hein. Je ne sais pas comment Dieu fait ces choses. Hein. Comment est-ce qu'il nous parle, au juste. Hein.
Et c'est clair et on comprend que c'est ça.
Eh ben, sur le moment, oui, j'ai pas eu envie d'y croire immédiatement parce que ça paraissait tellement extraordinaire qu'un Dieu réponde alors que franchement… Deux minutes après, j'avais pas vraiment été sympa. J'ai utilisé des mots durs pour décrire ma situation. C'est après coup, tu sais, lorsque tu analyses, tu te rends compte que tu n'as rien inventé. Tu n'as pas inventé la poudre en parlant avec Dieu. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, parfois avec des mots très similaires. Je pense aux psalmistes, hein, quels qu'ils aient été. Hein, ils ont des mots qui sont parfois crus, qui sont directs, qui sont revendicatifs. Ils attendent une réponse de Dieu. Et là, moi, j'étais dans ce ras-le-bol de moi-même et de je ne savais pas trop quoi au juste, en réalité. Mais je savais simplement qu'il fallait que je vide mon sac. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu cette réponse. Sur le moment, ça m'a paru complètement impossible, presque. Mais pourtant, je me suis laissé conduire par quelque chose qui me disait « Et si c'était vrai ?» Tu vois, j'étais pas convaincu et en même temps, il y a quelque chose qui voulait me convaincre. Il y avait quelque chose en moi qui voulait y croire.
Et tu as fait le choix de tenter de croire
et voilà ce que ça donne. Donc
merci beaucoup.
Mais je t'en prie, hein, voilà, ça démontre simplement que lorsqu'on prie le Seigneur, eh bien il faut s'attendre à ce qu'il nous réponde.
C'est ça. De façon parfois surprenante.
Oui, absolument, toujours surprenante, toujours.
Merci beaucoup.
« Alors, Evie, tu voulais nous parler d'amour, c'est ça?
Oui.
Alors, la parole est à toi.
Merci. Alors, je voudrais vous inviter dans Genèse 19 au verset 26. Donc, c'est dans l'Ancien Testament.
Tout début de la Bible.
Tout début de la Bible, effectivement. Mais avant cela, quand même, je voudrais vous parler d'un psaume qui est assez connu, psaume 121, qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle celui qui te garde. » Et j'aime bien. Vous avez compris Stan Rougier qui va dire « Il ne laisse pas dévier ton pas, il ne dort pas celui qui veille sur toi. » Alors, revenons dans Genèse 19, nous allons voir l'histoire d'une femme qui, elle, a dévié son pas et qui, malheureusement, a une fin tragique. Donc, son histoire ne tient qu'en un verset, et je vais le lire. « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Voilà.
Il va falloir un peu de contexte, là.
C'est ça.
On comprend pas trop.
Et pour donner du contexte, je me suis permise de réécrire cette histoire un peu à ma façon.
D'accord. Donc, j'essaie si on veut voir l'original, on va dans Genèse.
Exactement.
Là, on écoute ta version.
Je me dis quand même, hein, la postérité ne gardera que cette phrase d'elle, et c'est dommage. Mais bon. Alors, en me réappropriant cette histoire, je me dis, une femme marche sur un chemin rocailleux. Chaque respiration, chaque pas est douloureux. Sur son dos, de maigres affaires et dans le cœur, un sentiment amer. Elle suit ses filles et son époux, l'esprit anesthésié, le cœur lourd. Elle se demande, est-ce que Dieu va vraiment abattre son courroux? N'est-il pas un Dieu d'amour? Elle a peur, elle est essoufflée. La montagne est encore loin et trop long le chemin. À quoi bon continuer? Dieu en vaut-il vraiment la peine? Est-ce que le sacrifice n'est pas trop grand? Et si toutes ces souffrances étaient vaines, est-ce que Dieu est vraiment si important? Et est-ce qu'au bout du chemin, il y a vraiment quelqu'un qui m'attend? Alors, pour resituer le contexte, elle parle de... Enfin, c'est l'histoire de Lot, hein, qui doit quitter la ville de Sodome et Gomorre parce que Dieu a décidé de la détruire par le feu.
Donc, c'est la ville de cette femme aussi, finalement.
Voilà, exactement.
Quitter.
Qu'on connaît peu, malheureusement. On ne connaît même pas son nom. Et donc, comme cette femme, je me pose un tas de questions. Et quand je me pose ces questions, je voudrais regarder en arrière. Parce que quand on regarde devant, il y a une montagne énorme. Et je me dis, mais oulala, ça a l'air compliqué à franchir. Donc, on est assaillis de doutes. Et comme dira Jean Fleury, le doute engendre le doute et s'en nourrit. Il s'enfle, il submerge tout. La confiance cède lorsqu'on met en question l'amour de Dieu. Donc, pour lui, dès qu'il y a doute, c'est souvent en rapport avec l'amour de Dieu. Et c'est une question que je voudrais vous poser, en tout cas, chers auditeurs. Que signifie l'amour de Dieu? Je me mets à la place de cette femme et je repense à une autre phrase qui dit qu'un chemin n'est pas seulement fait pour y marcher, mais c'est aussi une occasion d'avancer. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà. Pourtant, il m'arrive de m'arrêter, moi, sur ce chemin et de ne plus pouvoir continuer. Pourquoi? Ben parce que j'ai tout simplement perdu le sens du mot « amour ». Alors, beaucoup de philosophes comme Platon vont décrire l'amour comme un trou béant, hein, qu'il est difficile à combler et que voilà, il parle de désir qu'on passe notre temps voilà, à satisfaire. Mais on n'y arrivera jamais finalement. Et je me dis, cette femme, quand elle voit cette montagne, elle doit aussi penser que c'est un obstacle infranchissable. Que je pense qu'elle doit se dire, mais il y a un trou béant en moi qui ne peut pas être comblé. Alors comment on peut avancer dans ces conditions? Alors le monde d'aujourd'hui semble donner raison à Platon, parce que quand on voit comment les couples se comportent, on voit que voilà, ça se déchire, ça se trahit, qu'il y a beaucoup de voilà, et des gens qui se sentent seuls aussi et abandonnés. Donc l'amour finalement, il est passé où? Donc voilà, je me dis, cette femme, elle avait pourtant, donc dans l'histoire, elle a laissé beaucoup de choses derrière elle. Elle a perdu, je pense, une grande partie de sa famille, mais pourtant elle avait son mari. J'imagine, je sais pas pourquoi j'imagine qu'elle suivait son mari et ses filles. Et je me dis, mais est-ce que ce n'était pas assez d'amour pour avancer? Si l'amour est si puissant et si ses liens sont si forts, alors pourquoi elle s'est retournée, malgré l'ordre explicite de Dieu de ne pas le faire?
Parce que Dieu lui demande quoi?
Oui, il lui demande de surtout pas se retourner. Hein, on lui tire par la main, on dit surtout de peur. Voilà.
Donc
on
si sait elle ce qu'il arrive,
si elle se retourne.
Elle se retourne
voilà.
Elle
et c'est ce qu'elle fait, hein,
une statue de sel,
comme on l'a lu. Effectivement. Et je me dis, mais cet amour-là, pourquoi il n'a pas pu la combler? Pourquoi il n'a pas pu suffire? Et je me dis, voilà, quelques éléments de réponse. Je me dis, peut-être, parce qu'aujourd'hui, on voit l'amour comme un sentiment. Si on regarde à la définition de sentiment, c'est une sensation, c'est une impression. C'est des fois une perception que l'on a des choses. Donc, vraiment, c'est lié à l'intellect, à la cognition. C'est vraiment comment on comprend les choses, comment on les perçoit. C'est un peu différent de l'émotion, qui est plutôt une réaction à un stimulus externe ou interne. Donc, c'est vraiment, c'est un peu plus éphémère, l'émotion. Mais quand on voit à l'échelle humaine, l'émotion et le sentiment, ben, ça paraît quand même, comment dire, passager. Donc, voilà, parce que vous avez déjà entendu, par exemple, cette expression « mes sentiments ont changé ». Mmh. Ou « je t'aimais, mais maintenant plus », ou « je ressens plus rien pour toi ». Alors, qu'est-ce qui a disparu ? C'est le sentiment, l'émotion ou bien les deux ? Je me dis, mais comment, à notre niveau, à l'échelle humaine, nous pouvons saisir vraiment cet amour divin dont la Bible nous parle tant ? Et si je fais le parallèle entre l'expérience de la femme de Lot et celle de Jésus, par exemple, je suis quand même forcée de constater que je me rapproche plus de celle de la femme de Lot, de cette expérience-là. Pourquoi ? Parce que sur un chemin, comme on dit, le chemin de la vie, j'ai souvent tendance à faire du surplace. Je ne sais pas vous. Mmh. Oui. Des fois, on a le sentiment, oui, d'avoir perdu quelque chose. Et moi, dans ma vie spirituelle, je me dis parfois, mais en fait, elle est où ma confiance en Dieu ? Elle est où ma foi ? Elle est où mon amour pour Dieu ? Alors, on se retourne. On se retourne, on regarde en arrière pour chercher son premier amour. Et... en cherchant en arrière, on peut trouver quelque chose qui ressemble à de l'amour dans la famille, chez les amis. Et puis, on se laisse distraire par la vie. On se dit, c'est pas mal, hein, on s'établit. Hein. Je prends vraiment la métaphore de la femme de Lot hein, qui laisse derrière la ville. Et je me dis, on reste là-bas. Et finalement, on oublie de regarder devant soi, on oublie d'avancer. Et je vois que Jésus, il agit différemment sur son chemin. Malgré qu'il soit maltraité, malgré qu'il ait eu des coups, des blessures, malgré qu'il doit porter une poids pesante, il continue d'avancer sur son chemin. Il ne regarde jamais en arrière. Et la Bible nous dit qu'il le fait par amour. C'est-à-dire qu'il a les yeux fixés sur quelque chose de beaucoup plus grand que lui, quelque chose de beaucoup plus important. Alors, quelles leçons tirer ? Parce que je me dis qu'il y a de l'amour quand même dans les deux récits. Mais je crois qu'il existe un type d'amour qui nous fait vraiment avancer, qui nous fait avancer véritablement. Et malheureusement, cet amour-là, c'est un amour des fois qui peut briser, qui peut faire mal, qui peut détruire le corps. Mais la Bible nous dit que c'est un amour qui ne détruira jamais l'esprit. Au contraire, c'est un amour qui restaure l'âme. Pourquoi ? Parce que c'est un amour qui comble, c'est un amour qui accomplit tout pleinement et c'est surtout un amour qui assume ses responsabilités jusqu'au bout. Alors, en définitive, qu'est-ce que l'amour ?
Mais c'est ça la question.
Eh bien, je dirais que l'amour, c'est plus qu'un sentiment, on l'a vu, plus qu'une émotion, plus qu'une idéologie. La Bible nous parle d'un principe. Et si on regarde à l'origine, le mot principe veut dire le moteur, c'est un peu la force qui initie un mouvement. Donc c'est le commencement de quelque chose. Et si on fait un peu de maths, on connaît ce principe de base de la Bible qui dit que Dieu est amour. Alors j'aimerais vous dire, si on prend Genèse 1, on dit que donc, Dieu créa les cieux et la terre, et je voudrais dire l'amour créa les cieux et la terre. Pourquoi ? Parce que l'amour est finalement une personne. L'amour, je voudrais vous donner ma définition, c'est une loi inscrite dans le cœur. L'amour est une identité qui coule dans les veines. Et donc, cet amour, c'est ce qui nous aide à avancer. Et des fois, comme j'ai dit, c'est une personne, elle peut nous porter, cette personne, elle peut nous tirer. Parce que dans l'histoire de Lot, on voit que Lot, il a du mal à vouloir quitter la ville. Alors les anges le tirent. Donc Dieu peut nous tirer des fois. Donc l'amour est une rencontre. On a l'impression que les montagnes, voilà, c'est trop haut pour nous, c'est compliqué, mais c'est sur ces montagnes qu'on rencontre Dieu. C'est le lieu où on doit se sentir en sécurité, où on est en sécurité. Donc le véritable amour nous fait toujours avancer, sans regret, même dans les moments difficiles, et voire extrêmes, parce que la vie est faite de moments extrêmes des fois. Et je pense que c'est un combat de toute une vie. Je pense aussi que c'est une prise de position. Donc cette prise de position, c'est quoi ? C'est toujours garder les yeux fixés vers Dieu, sur Dieu. Et quand nous comprendrons, je pense réellement, ce qu'est l'amour, quand on comprendra que c'est un cheminement personnel avec le Christ, je pense qu'on pourra dire, comme Paul dans Philippiens 3, versets 13 à 14, qui est dans le Nouveau Testament.
Et Paul, c'était donc ?
Paul, c'était un des apôtres, enfin, du Christ, qu'est-ce que considéré comme apôtre du Christ. Et il dit, « Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. » Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc voilà, chers auditeurs, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur ce principe de l'amour.
Merci. Nous voilà au Culte Espoir, nous venons d'écouter Evie Rayapin qui nous a partagé sa réflexion autour de l'amour. L'amour tel qu'il est défini par la société et l'amour pas comme principe divin. Nous aimons bien ici au Culte Espoir prendre un petit temps d'échange pour ressortir ce qui nous a touché, interpellé, questionné, l'idée que nous aimerions garder du partage biblique. Alors je me tourne vers mes collègues autour de la table. Marilyn Briand, ça vous parle ?
Bah oui, c'est, en tout cas ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. J'ai une première peut-être question à partager, t'as évoqué qu'elle ne doit pas se retourner cette femme de Lot, en fait il y avait un souci.
Mais oui c'est ça, pourquoi elle ne doit pas se retourner?
Alors, elle doit pas se retourner parce que derrière c'est Sodome, et dans l'histoire Sodome c'est une ville qui a beaucoup péché, qui a fait des choses tellement énormes que Dieu dit « Oh ça suffit, il faut que je descende mettre une fin à tout ça ». Et donc il a décrété que Sodome, que c'était la fin de Sodome et de Gomorre, la ville à côté. Et donc voilà.
Mais du coup, le fait qu'elle puisse pas, enfin, aller sur ce chemin pour être sauvée finalement de cette destruction. Et pourquoi du coup le fait ça? Parce que moi j'imagine, tu vois, tu dis, oh là là, il se passe quoi? Tu te retournes. Oh là là, oui, c'est la galère. Oh, on y va. Enfin, tu vois, elle aurait pu se retourner puis après revenir sur son chemin.
C'est un ordre de Dieu qui lui demandait de garder les yeux fixés en avant, parce que derrière il allait tout détruire. Et je pense que c'est comme ça qu'on l'analyse, hein, mais que derrière il faut on laisse tomber notre ancienne vie, et quand on accepte Dieu, voilà, c'est la vie qu'il nous propose qui compte, quoi. C'est voilà, rester accroché à son amour et de laisser tomber derrière. Malheureusement, je pense qu'il devait y avoir des gens de sa famille, mais qui ne l'ont pas suivi.
C'est comme un choix, finalement.
C'est une prise de position, exactement. Voilà. C'est regarder en avant et oublier, comme dit Paul, ce qu'il y a en arrière pour avancer.
Oui, justement, c'est le choix là, ça m'interpelle parce que au-delà de l'émotion, au-delà du sentiment, en fait, l'une des définitions que tu donnes, c'est finalement, ben, c'est un choix de l'amour, c'est un choix en fait de suivre Dieu et que quel que soit en fait ce qu'on ressent et les émotions qui peuvent être bonnes, mais, et ben du coup, c'est quand même de se dire, ok, ben je décide de regarder vers Jésus. Ça, c'est un type d'amour.
Oui.
Moi, ça me fait penser... À un moment donné, tu as dit que les philosophes... c'était Platon, c'est
oui,
ça qui évoque le trou néant, l'amour est un trou néant. Bon, moi, je me suis dit, mais en fait, en vrai, on a ça dans le sens où chaque être humain a ce trou, ce néant à l'intérieur de lui qu'il a besoin de combler, et on va combler par tout type d'amour qui n'en sont pas, finalement. Et effectivement, en fait, et c'est peut-être dit et redit, mais ça me semble essentiel, en fait, on a besoin d'être comblé par Dieu. Et finalement, cette seule source réelle authentique d'amour, un amour pleinement désintéressé, un amour pleinement vrai, un amour tellement incroyable qu'on n'arrive pas à le définir finalement, bah c'est Dieu qui peut nous l'apporter. Ouais. Et je pense que toi tu parlais de choisir Dieu, mais en fait si tu ne sais pas qui est Dieu et c'est quoi son amour, tu ne peux pas choisir et définir quel est l'amour de Dieu. Bah, pour moi, un des exemples que tu as cité, c'est vraiment Jésus qui est sur ce chemin-là en train de porter sa croix pour aller se faire crucifier et qui ne se dit pas « c'est bon les gars !» Quelle idée, moi je suis tout puissant quand même, on arrête, je pose ça et je m'en vais. Non, il va vers le but, il sait ce qu'il attend, c'est la mort. Qui est, je veux dire, on parle de résurrection, mais il est mort avant, il a souffert. Quoi. Et il y va quand même, et ça, hein, il n'y a pas plus grand amour qu'un ami qui se donne, qui meurt pour, enfin qu'une personne qui se meurt pour ses amis, c'est ça que dit Jésus. Bah, c'est ça hein, l'amour dont on parle, il me semble. Hein.
Oui, je pense qu'on a besoin de stabilité. Et effectivement, l'émotion, le sentiment, comme on l'a dit, c'est tellement lié aux aléas de la vie, tellement passager. Alors, je ne sais pas, l'amour existe. Hein,
mais... Amen.
Même à l'échelle humaine, mais ce ne sera jamais suffisant, puisqu'on le voit, même ça n'a pas sauvé cette femme, puisqu'elle s'est retournée, elle a... Voilà.
Je vais prendre le contre-pied en même temps, parce que du coup, c'est vrai que c'est un choix, c'est une décision, mais attends, mais même dans notre relation avec Dieu, il n'y a pas des moments où il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a des papillons dans le ventre parce qu'on vit quelque chose de spécial avec Dieu et puis il nous remplit d'un truc, oh là là, c'est incroyable ce que je vis avec Dieu, je t'aime, enfin, il y a ça aussi dans l'amour avec Dieu, non?
Mais il y a peut-être, il y a ça et il y a aussi le moment... Ou ben peut-être tu l'as moins parce que je sais pas, t'es fatigué, t'en as marre, t'es chargé et tu sens plus ça. Et est-ce que quand on sent plus ça, ben on arrête?
C'est ça.
Ou est-ce que on continue parce qu'on sait que ça dépend pas de mes émotions, enfin l'amour de Dieu dépend pas de mon ressenti, mais c'est quelque chose qu'il m'a appris, enfin qui c'est dans ce chemin justement dont tu parles, j'ai l'impression que c'est un peu ce chemin où Dieu nous apprend qu'il nous aime. Et est-ce que le jour où je ne le sens pas, je vais en douter ou je vais dire « il m'a dit ».
Voilà.
Donc moi, je continue ma démarche. Mais il y a un texte que j'ai trouvé qui est très très beau. Alors c'est dans l'Ancien Testament. C'est vraiment aussi parmi un peu une image qui est dure, mais je trouve que c'est ça en fait l'amour de Dieu comme principe. C'est un amour qui est un peu trash, pas dans le sens que Jésus il est mort, mais pour des gens qui n'en avaient mais rien à faire, quoi.
Puis qui l'ont craché dessus, qui l'ont donné des coups de poing. Enfin,
oui, c'est ça.
Quand tu lis, je relis actuellement ce chapitre, c'est affreux ce qu'il a subi juste avant de monter à la croix.
Oui, et du coup, c'est dans ce sens un peu trash, mais dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre d'Osée, il dit qu'il aime son peuple, enfin, comme si, malgré que son peuple s'en va, il continue de l'aimer quand même. Et je trouve que ça, c'est touchant, parce que même quand nous, peut-être que, on n'a pas la persévérance qu'on pourrait avoir, parce que la sécurité de se dire « non, je suis aimée même si je ne sens pas », savoir que c'est passager, nos émotions passent, mais de savoir que Dieu, en fait, il se laisse pas désarçonner parce que aujourd'hui je le sens pas, puis il se dit ah mais celle-ci elle a rien compris, ciao. Il est stable, comme tu dis.
Cher auditeur, chère auditrice, en fait tu es profondément aimé. La vie du chrétien, c'est peut-être ce cheminement pour petit à petit découvrir cet amour. Et ça, c'est pas merveilleux de passer sa vie à découvrir à quel point on est aimé, à quel point on peut aimer aussi Dieu. Eh bien, c'est ce qu'on a envie de te partager. Et toi, qu'est-ce que tu ressors de ce partage biblique ?
Père éternel, nous voulons te bénir pour ton Fils Jésus. Tu nous l'as donné et il est venu nous chercher, nous sauver. Tu nous as donné à travers lui ta paix, ta vie. Nous voulons le chanter. Payer le prix pour me retrouver.
Alors on en a parlé, un des symboles par excellence pour symboliser l'amour divin, c'est la croix. Jésus a été sacrifié sur une croix pour moi, pour toi, pour nous sauver. Et je le citais tout à l'heure ce verset, ça, je me rappelais plus, je me l'étais noté. Jean 15, 13, il n'y a pas plus grand amour que de mourir pour ses amis, disait Jésus. Mmh. Alors la croix est faite de deux bois. Il y a un poteau vertical et peut-être symbolique de la relation verticale que nous pouvons avoir avec Dieu. L'amour divin se manifeste ici dans ma relation intime avec Dieu, Dieu vers moi, moi vers Dieu. Et puis la croix est faite d'une poutre
horizontale.
Merci, horizontale cette fois-ci. L'amour divin se manifeste dans ma relation avec l'autre. L'amour que je donne à l'autre et que je reçois de l'autre. Je me suis demandé en préparant ce culte comment l'être humain aujourd'hui vit cette dimension horizontale. Parce qu'on a parlé, depuis le début de ce culte, on parle de l'amour divin et puis de comment il nous accompagne dans nos cheminements personnels. Mais il est jamais, enfin, c'est jamais du coup que entre moi et Dieu, à un moment donné, cet amour divin va me pousser vers l'autre. Et comment du coup cet amour divin se manifeste dans nos relations humaines? Alors, un des exemples qui m'est venu, c'est la quantité d'associations à but non lucratif qui existent sur cette terre. Mmh. Par exemple, en France, moi je viens de France, je crois qu'en Suisse c'est pareil, des associations pour cultiver la fraternité, la solidarité, le respect de l'autre, pour faire du bien à l'autre et à soi dans le même élan. Alors, il existe beaucoup d'associations et un certain nombre d'entre elles ont été fondées à la base par des chrétiens qui avaient ce désir de refléter cet amour divin, d'aimer son prochain et ainsi d'honorer Dieu. Alors, j'en ai choisi une qui m'a particulièrement touchée et j'avais envie de la partager avec vous pour pas seulement rester dans comment je vais pouvoir vivre cet amour de Dieu, ce qui est très très important, mais aussi pour se mettre finalement, se tourner vers l'autre et se mettre à l'action. Cette association s'appelle les petits frères des pauvres. Vous connaissez?
Oui.
Quelque chose.
Vous avez déjà entendu? Vite fait.
Vite fait.
Alors, sur leur site, on peut lire, je cite, que son fondateur, Armand Marquiset, était un homme en quête de sens. C'est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, après un long cheminement personnel et spirituel, qui décide de se mettre pleinement au service des autres, puis en 1946, de créer l'association. Son projet, mobiliser des jeunes hommes au service des plus pauvres. Et à la sortie de la guerre, les plus pauvres étaient les personnes âgées, manquant de tout. Très vite, son souhait a été d'élever les petits frères des pauvres au rang d'une congrégation religieuse, parce que pour lui, servir l'homme fragile, c'était servir Dieu. Un souhait qui n'a jamais été réalisé. En effet, l'Église catholique lui préconise de rester laïque afin de mobiliser plus largement les citoyens. Et donc, du coup, aujourd'hui, les petits frères des pauvres sont sans appartenance politique ni confessionnelle. N'importe qui peut être actif dans cette association. Sur le même site, l'association part aujourd'hui d'un constat. Aujourd'hui, en France, 2 millions d'aînés souffrent d'isolement. 530 000 personnes âgées sont en état de mort sociale, privées de liens et des plaisirs simples et essentiels de la vie. Leur objectif, donc, vous avez bien compris, c'est de permettre à chacun de nos aînés souffrant d'isolement et de solitude de vieillir plus sereinement dans l'échange, dans le partage, dans des plaisirs simples et essentiels de la vie.
Mais du coup, quelles sont leurs actions?
En trois mots, accompagner, agir, témoigner. Donc, il y a des bénévoles qui vont visiter les personnes isolées, puis ils organisent des vacances, des activités pour ce public et ils cherchent à favoriser le lien social. Ils organisent des campagnes pour donner une voix à cette population et leur apporter une forme de visibilité dans l'opinion publique, auprès des décideurs publics. Et puis, ils agissent contre la vulnérabilité en lien avec la santé, le logement, les ressources financières. Donc voilà, moi, ça me touche de me dire, cet amour divin qu'on explore et avec lequel on va cheminer, il m'amène aussi à me tourner vers l'autre et à en témoigner. Et il y a tellement de manières différentes d'en témoigner. Cet homme a trouvé à travers cette association. Il y a d'autres manières aussi. Et vous, Marilyn Hébry, est-ce qu'il y a une association fondée à la base par un chrétien désireux de vivre cet amour divin que vous aimez bien?
Alors moi, il y a ADRA. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vous dit quelque chose?
Elle est connue dans le milieu adventiste, c'est connu.
Qu'est-ce que ça veut dire ADRA d'ailleurs, si vous savez?
Je sais pas par cœur.
Agence de développement du secours adventiste.
Voilà. Ah oui, on l'appelait ça Secours Adventiste à l'époque.
Exactement. Ça a été fondé après-guerre, un peu comme les Petits Frères des Pauvres en 1956. Et c'est donc une ONG, organisation non gouvernementale, qui agit auprès des personnes démunies. Il y a plusieurs antennes un peu partout dans le monde.
Oui, c'est dans le monde entier. Il y a beaucoup, beaucoup de pays impliqués. Hein.
C'est ça. Et les mots qui portent cette organisation, c'est la justice, la compassion et l'amour de l'autre. Ouais.
Excellent, ok. Et toi, du coup, t'en as une qui te vient ?
Alors moi, j'ai pensé à Portes Ouvertes. Ça existe entre autres en Suisse et puis je crois en Allemagne. C'est une association créée par Frère André aussi. C'est tout dans la même période, en 1955.
Bah, après la guerre, c'est interpellant quand même. Ouais. Comment manifester l'amour de Dieu après quelque chose d'aussi
dramatique
la guerre, ouais, ça, ouais. C'est
et logique. La mission principale de cette association, c'est de soutenir les chrétiens persécutés dans plus de 70 pays au monde. Et ce que je trouve qui est interpellant, c'est que ben ils vont avoir une mission d'engagement et de mobilisation des chrétiens en Europe, on va dire, pour soutenir et permettre de former, accompagner, visiter les chrétiens qui sont persécutés.
Mais c'est une réalité finalement, voilà. Qu'aujourd'hui, choisir de ce cheminement d'être de avec foi, Dieu, ouais.
Ça peut être ça très, peut être très dangereux. Voilà. Ouais. Et pourtant, d'écouter les témoignages aussi de ces gens, je trouve que c'est très touchant parce que des gens qui sont du coup persécutés, parce qu'on voit que pour eux, cet amour, il est concret et ils ne lâcheraient pas ça. Malgré tout ce qu'ils doivent parfois lâcher, perdre, c'est quelque chose qui les remplit, qui fait partie de leur vie et qui est très important. Mais ils ont besoin de prières et du soutien de ceux qui sont en paix, on va dire, pour tenir, parce que c'est pas facile. Et je trouve que c'est beau.
Ça me fait penser, je lisais justement cette semaine, c'est en Corée du Nord, je crois, ou Corée du Sud, je me rappelle plus, où les chrétiens sont très très persécutés. C'était beau parce que ces chrétiens persécutés demandaient pour qui ils devaient prier pour d'autres chrétiens persécutés ailleurs. Ouais. Je me disais, mais comment on peut être d'une telle force, d'un tel amour, qu'on arrive à au-delà, comme tu disais finalement, au-delà de leur situation, ils arrivent encore à penser à l'autre et à se lever pour l'autre. Je propose de conclure cette chronique par l'écoute d'un chant qui a été composé par Denis Potier, pasteur français qui lui aussi a créé une association qui s'appelle Épidémie d'amour. Bon, vous aurez compris, c'est le contre-pied des autres épidémies qui ont pu traverser le monde, et j'aime bien cette ambition, et qui sensibilise cette association, la société aux pauvres, et qui leur vient en aide. Bonne écoute.
L'amour comme signe de solidarité, l'amour qu'il a donné le premier, l'amour de Jésus offert en cadeau. Oui, cet amour aura toujours le dernier mot. L'amour au-delà de nos frontières, l'amour du ciel envahit la terre. L'amour que tu donnes à ton prochain, oui, cet amour pour le mendiant et l'orphelin. Imagine cet amour sans filtre ni détour pour vivre, voir une épidémie d'amour. L'amour que tu donnes de rire, l'amour de la croix donné pour toi. Oui, cet amour vient de la source de la joie.
Après tous ces échanges, je vous propose de prendre un temps de prière avec Evie.
Merci Seigneur Jésus de nous avoir réunis à nouveau pour parler d'amour, pour nous rappeler Seigneur que tu es un Dieu d'amour, que tu marches avec chacun d'entre nous, même si le chemin est difficile, même si comme l'histoire de la femme de Lot, nous avons des fois envie de nous retourner et rester accrochés à notre vie d'avant Seigneur. Parce que nous avons peur des difficultés, de la montagne qui se présente devant. Mais tu promets de rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu promets de nous aimer quoi qu'il arrive. Nous te demandons de nous permettre de croire en cette promesse. Et voilà, de nous aider à continuer, à nous accrocher à toi, d'être notre socle et notre rocher, Seigneur. Nous te demandons toutes ces choses dans le doux nom de Jésus pour ta gloire. Amen.
Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Profonde, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire les eaux et remplirait
pas question de se quitter sans que je te propose l'action du jour, parce que mettre en pratique permet de tester, d'expérimenter et de vivre quelque chose de particulier. Pour ce défi, je t'invite à être curieux, comme dans un genre d'enquête. Parce qu'on prône beaucoup le message d'amour dans notre société, mais finalement, que dit la Bible de l'amour dans le livre des Psaumes, dans l'Ancien Testament? Que dit Dieu de l'amour qu'il a pour nous? Que dit Jésus de l'amour?
Bon, pourquoi mener cette enquête?
Alors, parce que plus tu trouveras des messages et des textes qui traitent de l'amour, plus ça te donnera envie de creuser. Enfin, j'espère.
Et alors, comment on s'y prend?
Oui, parce que tu ne vas pas plonger tête baissée. Aide-toi des plans lecture biblique sur le thème de l'amour de Dieu que tu peux trouver, par exemple, sur l'application gratuite de Bible de YouVersion sur ton smartphone ou ton ordi. Si tu n'as pas de moyen de communication, tu peux utiliser le papier à l'ancienne. Tu ouvres ta Bible, tu fouilles, tu notes, tu surlignes. D'ailleurs, comme ta Bible, là, je vois qu'elle est bien surlignée. Et si tu ne sais pas par où commencer, ben, je te suggère de commencer par les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Avec qui est-ce qu'on fait cette action?
Alors avec Dieu, parce que c'est un moment entre toi et lui. Alors tu peux trouver plein de vidéos qui traitent du sujet de l'amour. Mais comme on dit souvent dans nos cultes, demande-lui de t'assister dans ta recherche. Tu n'es pas seul.
Et on doit faire ça tous les jours? Tu ne peux pas faire ça tous les jours, Marie-Louise.
Tous les jours, non. Programme-toi vraiment un ou deux moments dans la semaine où tu veux vivre ces expériences, car ça ne viendra pas forcément naturellement. Il faut vraiment que tu le programmes. Alors installe-toi tranquillement sur une chaise ou un fauteuil et profite de cette expérience Bible en main. Bonne action à tous.
Très bien, brillant, merci.
Et le temps est venu pour moi de clôturer ce bon moment de culte passé ensemble. Merci Marina, merci Marilyn, merci Amandine pour vos chroniques.
Merci Brillant,
merci.
Merci Evie d'être venue pour une série de 2 cultes.
Merci.
Ça a été?
Oui.
Super. Tu reviens quand tu veux, tu es ici chez toi. Sois béni dans ton ministère. Merci à toi, auditeur, auditrice, d'être resté avec nous et n'oublie pas de partager, si tu le souhaites, ce culte autour de toi. Quant à moi, je te souhaite une belle fin de journée, de soirée, de matinée, suivant là où tu te trouves, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.